Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes de nouveau sur Paris Fréquence, Paris Pluriel. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animée par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Et aujourd'hui, pour présenter l'émission, Didier avec Damien et puis Claude, fidèle à la technique. Alors, l'émission de ce soir, eh bien, sera consacrée à la réforme du Code du travail en cours. Depuis maintenant quelques mois, différents rapports ont été produits sur la question. On peut rappeler pour mémoire le rapport d'abord le rapport de Jean-Denis Combrexelle, hein, qui a produit, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, précédé ou suivi par un rapport de Terra Nova. Hein, on verra ça avec nos invités, qui aujourd'hui sont alors Emmanuel Dockès, qui est professeur de droit à Paris-Ouest Nanterre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et Marc Mangenot, économiste, membre de la Fondation Copernic.
Bonjour.
Eh bien, donc tous deux sont rédacteurs d'une note qui vient d'être produite par la Fondation Copernic, qui s'appelle « Le Code du travail en sursis ». Et donc, autour de cette note, nous allons dialoguer un petit peu sur ce que nous prépare aujourd'hui le gouvernement en matière de réforme du Code du travail, et voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit en attendre. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Enfin, bref, voilà, toutes les questions qui peuvent se poser autour de ce code du travail, cette rénovation en cours. Alors, comme vous savez, vous pourrez également écouter cette émission eh bien, mercredi prochain à 7h. Et sinon, vous pouvez la podcaster sur le site de la Fondation Copernic, www.fondationcopernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi. Alors, peut-être dans cette première partie de l'émission, reprendre finalement ensemble le contexte. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y a différents documents qui sont sortis, différents rapports sur le code du travail. Est-ce qu'on peut un petit peu resituer le contexte pour qui expliquera ensuite la parution de cette note, Emmanuel?
Bien sûr. Donc les réformes du droit du travail, c'est quelque chose qui est récurrent, très régulièrement. On en a tous les ans, on a de nouvelles. Et là, on a eu un mois d'août qui avait quand même deux grosses lois, mais qui étaient dans une espèce de routine, c'est-à-dire qu'on a une quantité de textes qui, de toute façon, viennent s'accumuler dans le Code du travail régulièrement, de façon relativement habituelle, toujours plus ou moins dans le sens de la régression des avantages sociaux, mais c'est quelque chose qui est relativement constant depuis une trentaine d'années. Ce qu'il y a de relativement nouveau ici, c'est l'ampleur des réformes qui sont annoncées. Ces réformes-là ont été préparées par la diffusion de toute une série de rapports. On a eu un bombardement de rapports à partir de juin dernier en ce qui concerne le petit livre d'Antoine Lyon-Camp et Robert Badinter qui a lancé la série avec en réduisant le droit du travail à une cinquantaine de principes assez simples. Ça a été suivi par donc on a beaucoup parlé du rapport Combrexelle parce que c'est un rapport gouvernemental demandé par le gouvernement avec une grande liste d'experts, mais on avait le rapport de la Fondation Montaigne qui est très libéral, on avait le rapport Terra Nova qui est un think tank censément à
proche
gauche,
du Parti Socialiste,
proche de la droite du Parti Socialiste, donc ça fait quand même quelque chose d'assez libéral, et qui a effectivement été rédigé par Gilles Berset et Jacques Barthélémy étant un conseiller exclusivement du patronat. Donc c'est quand même encore un rapport qui allait un peu dans ce sens-là. On a le rapport comparativement modéré qui a été fait par le DRH d'Orange, mais enfin toujours, donc finalement des gens qui sont assez proches du patronat, qui ont fait des rapports de conseils en vue d'une évolution assez substantielle du droit du travail. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le gouvernement, surfant sur cette vague de rapports, est venu proposer une refonte assez globale. Ils veulent réécrire complètement le code du travail avec toute une série d'étapes. Et la première étape, c'est donc une commission qui est actuellement présidée par Robert Badinter qui se réunit et qui doit rendre un rapport sur les principes fondamentaux du droit du travail. On attend ça pour janvier. On a aussi un autre rapport qui est commandé à Monsieur Cesaro, qui est un professeur de Paris 2, lui aussi connu pour ses opinions plutôt patronales, et qui doit rendre aussi un rapport sur un autre point, qui est celui de la dénonciation et de la révision des conventions collectives.
Mmh. Mais du coup, pourquoi ce... Alors, en préparant cette émission, j'ai vu un peu toute la complexité de ce code du travail, et puis même toutes ces réformes successives. Ma question, c'est pourquoi cette accélération, finalement... Ces derniers temps, entre juin et maintenant, vous dites qu'il y a une multitude de rapports...
C'est bien difficile. Pourquoi est-ce que l'histoire s'accélère? Allez savoir. J'en sais rien. En revanche, je constate qu'il y a une menace d'accélération de l'histoire dans un sens d'une éventuelle réduction des droits sociaux. Alors, on ne peut pas préjuger non plus toujours de l'avenir. Les gens proposent de réécrire le droit du travail et s'annoncent, avec, pour certains, armés de bonnes intentions et pour d'autres, armés de mauvaises intentions. Donc, le contenu des futures propositions de réforme, et comme son nom l'indique, futur, donc si c'est futur, on n'en connaît pas la teneur. On peut simplement s'inquiéter pour différentes
raisons. En tous les cas, Marc, initialement, l'idée c'était quand même que ce code du travail, il est considéré comme trop lourd, et il est considéré comme du coup étant un frein au développement de l'économie. C'est quand même ça l'idée qui prélude, je dirais, à l'ensemble de ces rapports.
En tous les cas, c'est le prétexte.
En tous les cas, c'est le prétexte.
C'est le prétexte. Le prétexte dans un contexte dit de crise, une crise qui est réelle, bien entendu. Et on voit bien que le patronat, comme les rapporteurs d'ailleurs, s'engouffrent et ils sont comme prisonniers, les rapports. Tous ceux qui ont commis des rapports, c'est comme s'ils étaient prisonniers de ce contexte, et pas uniquement de la commande, qu'elle soit du gouvernement, qu'elle soit de la pensée libérale ou ce qu'on veut. Ça, je crois que c'est le premier élément. Et effectivement, on va peut-être développer tout à l'heure pour dire en quoi c'est absurde de prétendre un lien de causalité entre un code du travail qui serait et l'emploi qui serait en quelque sorte un frein à l'emploi. Ce lien de causalité, on en parlera probablement tout à l'heure, n'existe pas. Alors il y a plus, parce que dans ce contexte-là dit de crise, le marché se présente comme un alibi. Un alibi pour dire, c'est pas nous les patrons, on fait ce qu'on peut, on veut faire le mieux possible, nous ne voulons aucun obstacle, et nous sommes soumis au marché. Donc ça, c'est me paraît être le deuxième point dans les prétextes. Et toute l'offensive patronale va s'organiser, me semble-t-il, autour de ça. Et les juristes qui sont convoqués pour faire ce travail, je ne sais pas... totalement convaincu qu'ils aient la parfaite conscience de tout cela. Ils savent qu'il y a crise, ils savent qu'il y a un problème d'emploi, ils savent qu'il y a un problème de chômage, qu'il y a la précarité qui monte, les inégalités qui montent, mais ils ne voient pas, eux, le lien entre, effectivement, cette offensive patronale et ce contexte. Alors qu'ils croient voir le lien entre un code du travail trop lourd, trop complexe, et l'impossibilité, à cause de cela, entre autres, pas uniquement, de développer l'emploi.
Sur ce côté complexe du code du travail, dans la note, vous dites, vous réfutez très clairement cette idée. En tous les cas, vous dites que si le code du travail est complexe, c'est parce qu'on y a ajouté énormément de choses en vue justement de déréguler le marché du travail.
C'est ça. Alors l'idée selon laquelle le code du travail est mal écrit, complexe, difficile à utiliser... est une idée exacte, absolument exacte. Franchement, vous ouvrez un code du travail, c'est pas une partie de plaisir. Les choses sont à la fois très difficiles à lire, très difficiles à connaître. Les spécialistes eux-mêmes s'y perdent.
Comment ça se présente concrètement, le code du travail?
Alors, il a plusieurs formes. Ça dépend. Vous pouvez en télécharger un sur Légifrance.
A priori, c'est pas 10 pages.
C'est des milliers de pages.
D'accord.
Ce sont de gros volumes de textes. Alors, qu'il faille pas mal de règles est une chose normale. On est quand même dans une société qui demande de la régulation. Et cette demande de droit est une demande qui existe aussi au sein des professions et même au sein du patronat. Donc la demande de droit est une chose importante, et on ne résout pas la question de la régulation d'une chose aussi compliquée que le travail salarié avec deux ou trois principes. Donc pour le code de la route aussi, il y a des règles et elles sont relativement compliquées. Et le code de commerce est aussi épais que le code du travail. Donc le code fiscal est bien plus gros encore, et le code civil est encore bien plus gros que c'est les deux précédents. Donc le code du travail est compliqué, il n'a rien d'original en cela. Est-ce qu'il pourrait être mieux écrit? Oui. Est-ce qu'il pourrait être plus simple? Oui. Est-ce que ce serait mieux que ce soit plus simple? Oui, bien sûr, ce serait une meilleure accessibilité du droit aux personnes. Est-ce que c'est la cause du chômage? Non. Non, parce que les employeurs emploient ou n'emploient pas de salariés... indépendamment de l'épaisseur d'un code que souvent ils n'ont jamais touché de leurs propres mains.
Mais on voit bien que là, souvent, ce dont on parle, c'est les procédures de licenciement, les difficultés à se séparer des salariés, et ça, le patronat renvoie au code du travail en disant si le code du travail nous permettait de. Donc là, c'est pas vraiment une question d'épaisseur, finalement.
Non, alors là, il y a une espèce de légende qui est assez intéressante. Actuellement, un certain consensus se fait sur la difficulté qu'il y a à licencier les gens. Ce consensus vient de la chose suivante, c'est que ce discours de difficulté sur la possibilité de licencier des gens est véhiculé par le patronat. Le patronat dit il est extrêmement difficile de licencier les gens. Parallèlement, les syndicats ne veulent pas dire la chose suivante, mais si, vous pouvez licencier très facilement. Donc ils veulent dire, ah oui, effectivement, c'est difficile de licencier. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est difficile de licencier. Le juriste que je suis est obligé de constater que c'est faux. On a des licenciements, on a des centaines de milliers de licenciements, les ruptures de contrat de travail se font en quantité absolument gigantesque, et tout ce qu'on demande à un employeur pour qu'il puisse licencier, je ne sais même pas si je devrais le dire à la radio tellement c'est bête, mais on lui demande d'avoir une bonne raison. Une raison, quoi. Quand vous licenciez quelqu'un, il faut lui dire pourquoi, c'est une espèce de politesse, vous lui dites pourquoi. Et puis, il faut que ce soit, on dit, une cause réelle. C'est-à-dire, faut pas mentir, quoi. C'est réel, vous racontez pas de blagues. C'est important pour les personnes, elles perdent leur emploi. Réel. Puis, il faut que ce soit sérieux, vous êtes quelqu'un de sérieux. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Vous devez dire quelque chose de réel. Bon, par exemple, vous avez un problème économique. Et vous pouvez plus payer votre salarié. Souvent, les gens disent, je vais pas embaucher quelqu'un parce qu'après, je peux pas le débaucher parce que je risque de pas pouvoir le payer. Enfin, si vous pouvez pas le payer, la cause réelle est sérieuse, elle est là. Et le licenciement est extrêmement facile. Et c'est particulièrement bon marché en France. Ça coûte pas très cher de licencier. Donc en fait, c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'avoir une cause réelle sérieuse.
D'accord.
Mais les employeurs n'aiment pas être obligés de se justifier. Et donc, ils présentent cette obligation de justification faite aux salariés comme une très grave entorse.
D'accord.
À leur pouvoir.
Et ça, c'est clairement indiqué dans le Code du travail.
La cause réelle et sérieuse comme exigence est la règle essentielle, la règle principale. Qui limite le droit de licencier. Et c'est contre cette règle qu'il y a actuellement un très fort combat du patronat.
Étant avancé par le patronat, que si on pouvait licencier plus facilement, on pourrait embaucher plus facilement.
Oui, alors ça, c'est la vieille dialectique de l'effet pervers. On a quelque chose qui est toujours très amusant. On avait déjà ça en disant, vous voulez interdire le travail des enfants, mais du coup, les enfants n'auront plus de salaire et ils vont mourir de faim. Vous arrivez au contraire de là. Alors, il y a beaucoup de réponses à cela. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de toutes les développer. Il y en a une première qui est de dire qu'on a une espèce de paradoxe. Est-ce que vous pouvez trouver des employeurs qui disent « Je n'embauche pas parce que j'ai peur de devoir licencier et c'est difficile ». Est-ce que des employeurs comme ça, vous en trouvez? Est-ce qu'il en existe? La réponse, c'est oui, absolument. Vous allez discuter avec des gens et vous trouverez des tas d'employeurs qui diront « J'hésite à embaucher quelqu'un parce que j'ai peur du licenciement ». Ce n'est pas une question de droit, d'ailleurs. Dans les petites entreprises, licencier quelqu'un, c'est dramatique. C'est quelqu'un avec qui vous avez bossé pendant 10 ans, vous avez bouffé avec lui le midi, vous connaissez ses enfants, vous avez échangé des photos. Le licenciement est absolument dramatique dans les petites entreprises. Les gens ont peur de licencier pour des raisons qui sont humaines avant d'être juridiques. Mais indépendamment de ça, on peut avoir peur de licencier et avoir peur d'embaucher parce qu'on a peur de licencier. C'est pas une blague. Mais supposez que vous avez 11 employeurs. Vous en avez 10 qui disent « Moi, je n'embauche pas parce que j'ai peur de licencier ». Qu'est-ce qui se passe? Le 11e qui n'a pas peur de licencier rafle le marché parce que lui embauche, vous comprenez? Et donc, même si vous en avez 10 sur 11 qui ont peur d'embaucher, il suffit qu'il y en ait un qui lui dise « Moi, je m'en fiche, je prends mon risque ». Mais du coup, c'est lui qui récupère tout le marché supérieur, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait que même si vous en avez 10 sur 11 qui ont peur d'embaucher à cause des règles du licenciement, ce qui est radicalement faux, mais même si vous aviez ça, ça ne supprime pas un seul emploi. Parce que vous aurez toujours le 11e qui créera l'emploi si le marché en a besoin. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a la petite logique individuelle d'un côté. Genre, ah, je connais quelqu'un qui n'a pas embauché parce qu'il avait peur du licenciement. Oui, mais ça n'a aucun effet macroéconomique. Ça ne crée rien en termes d'emploi. Ça ne supprime rien en termes d'emploi. C'est neutre par rapport à l'emploi qui vient d'ailleurs.
Ah, je suis assez largement d'accord avec ça. Bah, sinon, d'abord, premièrement, je confirme ce que disait aussi Emmanuel tout à l'heure. C'est tellement difficile de licencier qu'il y en a effectivement des tonnes de licenciements. Comment se fait-il qu'avec tant de difficultés, on licencie autant? Il y a un paradoxe. En fait, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Ce qui les gêne, c'est la justification. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que ça puisse être discuté par des institutions représentatives du personnel, un comité d'entreprise, par exemple. Ça, j'ai beaucoup travaillé avec les comités d'entreprise sur ces questions-là. C'est pour eux, enfin pas pour tous les patrons. Dans les grandes boîtes, souvent ça les gêne moins. Mais dans les boîtes moyennes, de 50 à 1000 salariés, les patrons sont souvent beaucoup plus rétifs. Bon, c'est pas une généralité, mais c'est souvent ces tendances-là. Or, ils sont d'autant plus gênés que la plupart du temps, les projets de licenciement, qu'on appelle plan de licenciement, qu'on appelle maintenant plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un euphémisme. En réalité, ils sont souvent préparés, concoctés, pensés longtemps à l'avance. Quand ils sont présentés aux institutions du personnel, ou quand ils sont annoncés, j'allais dire, souvent, c'est trop tard. D'abord, c'est extrêmement préparé. Personne n'a jamais eu d'informations. Ça n'a jamais filtré. Il y a parfois des doutes. On se doute d'eux. Hein, dans beaucoup d'entreprises, on se doute d'eux. En général, les syndicalistes avertis, bon, veillent et ils ont parfois le sentiment que quelque chose se passe et qu'il y a une menace sur l'emploi. Et c'est pas. Mais en tous les cas, il n'y a pas l'information. Et lorsque les institutions, enfin les membres d'un comité d'entreprise veulent donner un avis ou faire la critique ou faire des contre-propositions, ils ont la difficulté, d'être devant le fait accompli, devant quelque chose de complètement nouveau, à propos duquel il y a très peu d'informations lisibles, facilement interprétables. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la loi, depuis longtemps, mais surtout depuis 82 et 85, les comités peuvent se faire assister par des spécialistes, devraient avoir les titres d'experts comptables, souvent des économistes. Voilà, mais c'est un travail extrêmement difficile. Et en termes de droit, aujourd'hui, on va peut-être le développer après, on sait rien. On a une réduction avec les mesures qui viennent d'être prises. Je ne sais pas ce qui va devenir ensuite. Une réduction, effectivement, des capacités des comités d'entreprise, des institutions représentatives du personnel, à se saisir de l'information, à disposer du temps nécessaire pour le faire, etc. Donc on est devant, quand on dit que ces réformes du Code du travail sont extrêmement nocives, bien, c'est un des exemples précis.
Avant de s'arrêter pour une pause médicale, on va peut-être traiter un point néanmoins, c'est que bon, on vient de voir que donc ces réformes sont en cours. On essaiera de les développer peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Peut-être qu'on peut peut-être voir, c'est qu'elles ne viennent pas dans un univers totalement absent. Enfin, il y a déjà eu différentes choses qui ont été faites. À part, je ne parle pas des rapports, mais déjà dans la modification du Code du travail. Et je pense en particulier à la question de l'inversion des normes. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus?
Alors, il y a une chose qui est un peu difficile à comprendre en droit du travail et qui est absolument cruciale. Et comme c'est difficile à comprendre, c'est par ce biais-là qu'on détruit les avantages sociaux. Parce que détruire les avantages sociaux, c'est pas quelque chose de très populaire. Donc, si vous voulez détruire les avantages sociaux pour des raisons qui sont idéologiques, économiques ou tout ce que vous voulez, vous préférez le faire de façon relativement discrète. Et en France, la destruction des avantages sociaux passe par des changements dans la hiérarchie des normes. Le seul fait de dire on va faire des changements dans la hiérarchie des normes, c'est déjà vous dire oh là là, je lâche, c'est trop compliqué, et donc vous avez déjà lâché.
Qu'est-ce que vous appelez normes, juste pour...
Les règles de droit.
C'est les règles de droit.
Les règles de droit. Okay. Et donc en fait, la question a une apparence technique, mais le résultat n'est absolument pas technique.
Concrètement, l'idée c'est que la loi primait sur l'accord de branche, qui primait lui-même sur l'accord d'entreprise. Là, on est en train de... On retourne à la situation, c'est ça ?
Oui, alors c'est une inversion qui est quelque chose qui se fait de manière progressive depuis les années 1980. disant que si on prend la situation au début des années 1980, la situation était relativement simple. Vous aviez des lois qui fixaient des minima, par exemple le SMIC, et puis une convention collective pouvait aller au-delà du minimum et prévoir un salaire supplémentaire, et puis un contrat individuel de travail. Bon, on devait respecter le minimum de la convention collective, mais il pouvait en rajouter encore une petite couche, et vous étiez encore un peu mieux payé que ce que prévoyait la convention collective. En d'autres termes, le contrat individuel pouvait être plus favorable que la convention collective, qui était plus favorable que la loi. La question de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est de faire en sorte que la convention collective puisse être moins favorable que la loi, et peut-être un jour, à terme, que le contrat individuel soit moins favorable que la convention collective. Si un jour on arrive là, il n'y a plus du tout de droit du travail.
Mais justement, que reste-t-il finalement du code du travail si finalement l'accord de branche ou l'accord d'entreprise est...
peut déroger.
Alors si,
est-ce qu'il a encore un rôle en fait finalement?
Alors il a un rôle qui est d'autant plus faible que la dérogation est facile. Typiquement, l'objectif sur lequel est le patronat depuis vraiment de très nombreuses années, depuis au moins une vingtaine d'années, même 30 ans, c'est de faire en sorte que la convention collective d'entreprise soit un moyen de détruire des protections sociales qui ont été construites par la loi. Légitimation de la régression peut produire des effets qui sont dangereux. Alors évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend du rapport de force, ça dépend de la menace qu'on fera ou non subir au syndicat. Mais si vous êtes suffisamment crédible dans vos menaces de licenciement, vous allez obtenir des signatures de régression sociale par des gens qui sont légitimement apeurés de la perte, enfin, qui ont peur de perdre leur emploi. Et de ce fait-là, vous avez des protections sociales qui peuvent être en régression, quoi. Donc c'est par ce biais-là, par un changement dans la hiérarchie des normes, que la régression sociale est faite en France.
Alors peut-être avant de poursuivre sur toutes ces différentes réformes, je vous propose une première pause musicale. De Gary Gréoux. Donc l'émission Mode d'emploi animée ce soir par la Fondation Copernic est consacrée aux réformes du Code du travail. Donc nous sommes toujours en présence d'Emmanuel Dokès et Marc Mangenot. Donc je reprécise que vous êtes quand même co-auteur de la dernière note de la Fondation. Co-auteur. Vous êtes avec d'autres que je pourrai citer tout à l'heure de la dernière note de la Fondation Copernic, le Code du travail en sursis. Je vous propose de poursuivre sur les dernières réformes législatives à propos du Code du travail. Marc, par exemple. Non. Bon, Emmanuel alors.
Oui. Alors on peut en citer toutes les trois.
Prenons les trois derniers, les
trois plus grosses, on va faire que les gros morceaux. C'est dans cette pluie de complexité que se passent des choses qui sont embêtantes. Et si cette complexité, elle est là aussi pour masquer un certain nombre de choses. Donc il faut essayer de simplifier, mais en simplifiant, évidemment, on rate un certain nombre de petites choses effrayantes qui ont été glissées par-ci, par-là. Les trois précédentes grandes réformes, on a eu la loi de 2013, la loi dite de sauvegarde de l'emploi, qui a vraiment, je simplifie, mais qui a vraiment rendu la procédure de licenciement économique collectif plus rapide et plus facile pour les employeurs. Il y avait précédemment d'importantes possibilités de discussion des plans de sauvegarde de l'emploi qui étaient offertes au comité d'entreprise. On a véritablement réduit considérablement ces possibilités de discussion. On a mis une distance considérable entre le juge et le salarié, qui ne peut presque plus saisir les juges pour contester les plans de sauvegarde de l'emploi. Et ce sont des petites mesures
techniques.
Qui, en
réalité, sont des plans de licenciement.
Oui, ça. Donc les plans de licenciement, avant, pouvaient être beaucoup plus facilement contestés en justice. Et toutes ces mesures techniques ont rendu la contestation très difficile. D'ailleurs, ça a marché. Les contestations sont devenues vraiment beaucoup plus rares qu'elles ne l'étaient. Et donc, ça va dans le sens d'une plus grande facilité de licenciement et d'une plus grande difficulté pour les salariés de contester la légitimité de
leur
licenciement.
Donc, ça répond au débat qu'on a eu dans la première partie de l'émission, consistant à dire le patronat explique que la difficulté, ce dont il a besoin, c'est de plus de flexibilité, dit autrement, une capacité à licencier plus importante.
Oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans une logique qui est tout à fait traditionnelle. N'importe quel pouvoir cherche à s'accroître. Il cherche à obtenir plus. Et là, le pouvoir de licencier est évidemment le nerf de la guerre dans l'entreprise. Et les employeurs, tout naturellement, demandent un pouvoir plus grand de licencier et moins de limites au droit du licenciement.
Il y a le pouvoir de licencier et le pouvoir de contester le licenciement, parce qu'il y a l'après, finalement, la réduction du rôle des prud'hommes.
Oui, c'est ça. Donc, ceci est un... On réduit les contre-pouvoirs en même temps qu'on augmente les pouvoirs. Ça revient un peu au même. Mais ce que je veux dire, c'est que cette revendication d'un pouvoir d'être plus grand est quelque chose d'extrêmement banal. Ce qui est étrange ici, c'est que cette demande d'accroissement du pouvoir se base sur une espèce d'intérêt général économique qui est absolument pas démontré. C'est pas parce que les gens peuvent devenir discrétionnaires dans leur puissance que les entreprises seront mieux gérées. Au contraire, ce sont des puissances contrôlées, des puissances rationalisées, des puissances organisées qui permettent une gestion rationnelle des moyens de production. Mais là, on demande un pouvoir discrétionnaire et on prétend que c'est bon pour l'économie. C'est très paradoxal. Donc là, on va dans ce sens-là.
Ça, c'était première loi, donc, la loi de sauvegarde de l'emploi qui date de...
Ouais, qui date de 2013.
De 2013.
Juin 2013. Les deux autres grandes réformes qui ont fait pas mal de bruit ont eu lieu à l'été 2015. Donc, c'était donc des lois d'août 2015. Vous avez la loi Macron, qui est une loi du 6 août 2015, et la loi Rebsamen, qui est du 17 août 2015. Alors, la loi Macron, c'est des centaines de petites réformes, hein, une pile énorme au sein de laquelle vous en passez une ou deux dans les JT et tout le reste, comme ça, peut passer discrètement. C'est de la communication qui va en faveur d'un certain nombre de groupements.
Qui n'est pas spécifiquement d'ailleurs lié au droit du travail.
Ah non, tout à fait. C'était un fourre-tout absolument gigantesque, une pluie de réformettes. Alors, certaines sont petites, d'autres sont plus abondantes et plus charnues. Qu'on pourrait le croire. Et notamment en matière de travail le dimanche, vous savez qu'il y a à peu près 20% des gens qui déjà travaillent le dimanche.
20% des salariés.
20% des salariés à peu près travaillent le dimanche. Bon, vous avez... Bien sûr,
l'ensemble du commerce, évidemment.
Alors, on pense beaucoup au commerce, mais c'est surtout santé, transport, sécurité. Transport. Vous avez toutes sortes de métiers dans lesquels...
Services, finalement.
De services continus.
Service à la personne.
Bien entendu, service à la personne. Et donc, toutes ces exceptions sont assez légitimes pour la plupart. Mais on les augmente. Et là, on a augmenté des possibilités d'ouverture le dimanche qui sont assez substantielles. Vous allez voir que... Les commerces vont être très régulièrement ouverts plus le dimanche. Bon, alors là, on a une discussion qui est évidemment très importante. Faut-il préserver un temps de vie familiale? Faut-il que le consumérisme l'emporte? Enfin, je vois pas.
Le dimanche, on dort.
Pardon?
Le dimanche, on dort, c'est ça?
Voilà, le dimanche, on va pouvoir se lever tôt pour aller faire les courses maintenant. C'est un service d'avoir des magasins ouverts. Certaines personnes sont contentes d'avoir les magasins ouverts le dimanche. Attention. C'est un service, mais que surtout, ils ne croient pas que c'est un service gratuit. C'est payant. Quand vous allez faire vos courses le dimanche, vous avez donc des salariés en plus qui travaillent le dimanche, qu'il faut payer. Et tout ça, il va falloir le récupérer sur le prix des produits. Et donc, il faut bien savoir que l'ouverture le dimanche, pour beaucoup de gens, c'est un truc sympa. On peut aller faire les courses le dimanche. Oui, c'est sympa, peut-être. Mais attention, attention. Le prix des produits, puisqu'il va falloir payer plus de salaire, il va falloir faire plus de marge, et donc ça entraîne une augmentation des coûts. C'est ce qui s'est produit dans plein de pays où on a eu cette ouverture le dimanche, notamment dans le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les commerces sont vraiment ouverts le dimanche, et ils ont pu regarder. Et le résultat, bon, c'est non seulement que les gens travaillent le dimanche, bon, ça c'est une première chose, mais c'est aussi que les prix ont augmenté pour pouvoir payer ce surcroît de salaire. Alors pourquoi pas, attention, c'est un service payant aussi. Ça c'est pour la loi Macron. Mais il y a beaucoup d'autres réformes dans la loi Macron, hein, je vous fais pas tout. Plus importante aussi, peut-être encore, était la loi Rebsamen du 17 août, qui a modifié assez substantiellement l'organisation des représentants du personnel.
Voilà. Qui a fait moins de bruit, du coup. Enfin, pour le commun des mortels, en tout cas.
Mais qui a fait très peu de bruit. C'était des dispositions relativement techniques. Et plus c'est technique, moins ça passe au JT. Cependant, c'était des dispositions assez importantes Ce qui était sur la sellette, c'était la multiplication, la multiplicité de nos institutions représentatives.
Vous savez, on parlait tout à l'heure, Marc était effectivement un des garde-fous pour le droit du travail, pour les salariés, disons.
C'est ça.
Un garde-fou relatif, mais un vrai garde-fou.
Oui. Donc on a les délégués du personnel, on a les délégués syndicaux, on a le comité d'entreprise et on a le comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, le CHSCT, le truc qui protège la santé.
Et là, l'idée, c'était tout ça, là aussi, c'était trop.
C'était trop.
Et c'était considéré comme coûteux, alors que souvent, c'est très avantageux pour l'entreprise d'avoir des représentants syndicaux qui alertent et qui disent des choses et qui font des propositions. C'est-à-dire que parfois, on se demande si ce type de proposition n'est pas un peu suicidaire. À certains égards, pas surtout. On comprend ce que ça veut dire. Il n'y a pas que la recherche du pouvoir, il y a aussi la recherche de marge, la recherche du profit. Et puis, la concurrence. Mais enfin, je te laisse terminer.
Mais l'idée, c'était qu'effectivement, l'ensemble des institutions sont nombreuses, coûtent cher à l'employeur, et donc l'idée, c'est de fondre en une seule et même institution, c'est ça?
Oui, et en même temps, de réduire aussi les droits des représentants du personnel en diminuant un peu les heures de délégation, c'est comme ça, enfin, la rémunération des représentants du personnel, en diminuant le nombre de représentants du personnel élus, donc en réduisant ce qui s'apparente à un contre-pouvoir ou un élément démocratique dans l'entreprise. Ce qui est marquant, c'est que le coût de la représentation du personnel est extrêmement bas. C'est quelques dizaines d'heures qui sont payées à un représentant du personnel par mois. Ça ne coûte vraiment pas cher. La démocratie n'est pas très chère. Mais cette revendication, vous comprenez, de lutte contre les contre-pouvoirs n'est pas une revendication qui est ancrée dans une rationalité économique. Nous voulons avoir les mains libres. C'est une revendication naturelle.
On est plutôt dans l'idéologie que dans le...
On est clairement dans l'idéologie. Typiquement dans l'idéologie aussi, ce qu'on a eu, c'est un des éléments d'une loi qui précède à peine celle de Macron. On avait les élections prud'homales qui étaient des élections. Alors si vous prenez le coût d'une élection, ben oui, il faut imprimer des bulletins, il faut mettre des urnes, et ils ont fait le coût, ça comptait plusieurs millions d'euros, vraiment, plusieurs millions d'euros. Ils se sont dit, faisons cette économie. Avec ce raisonnement-là, vous créez un despotisme. Les élections, bien sûr, ça coûte un peu d'argent, il faut faire des campagnes électorales, c'est pas tout à fait gratuit. On en voit bien le coût. N'oublions pas que les élections produisent aussi un gain. C'est-à-dire que si vous n'élisez plus vos dirigeants, vous obtenez des résultats qui sont le despotisme. Et le despotisme est lui aussi très coûteux, parce que les despotes s'en mettent plein les poches. Et c'est très très mauvais, ça. Et donc, d'un point de vue économique, la démocratie, ça a un coût, mais c'est aussi un gain. Et c'est vrai dans l'entreprise aussi.
Oui, c'est ce que
Marc, exactement.
Tu peux reprendre.
C'est ce que disait Marc, exactement.
Si je peux me permettre, en termes de coût, il y a un coût qu'on oublie souvent, c'est que ce que tu appelles le despotisme, qui est une réalité, et c'est un despotisme qui peut être très décentralisé, c'est que le coût est augmenté car ce despotisme-là a besoin de bureaucratie, de répression, de surveillance, beaucoup plus qu'auparavant, et c'est d'un coût énorme. On est discipliné, policé, constamment. Et ce despotisme-là s'accompagne... La démocratie, ça coûte. Pourquoi ça ne coûterait pas, d'ailleurs, si c'est une bonne chose? Mais le despotisme coûte encore plus cher. Hein, le bureaucratisme des despotismes, c'est un coût phénoménal. C'est vraiment... pas la peine de faire de l'histoire.
Donc si on vous écoute, alors c'est pas, on voit pas bien l'explication du point de vue juridique et de la démocratie en entreprise. Bon, le fait et ça marche pas non plus du point de vue de l'économie qui pourrait être réalisée. On s'interroge quelque part. Pourquoi?
Il y a quand même quelque chose. On est dans un modèle qui est celui de la démocratie nationale dans lequel on a un seul parlement. On a un parlement qui est généraliste. Et dans l'entreprise, on avait fait des institutions représentatives qui sont spécialisées. Vous en avez une qui s'occupe de la santé. Vous en avez une qui s'occupe de la discussion économique. Vous avez les délégués syndicaux qui font la négociation collective. Vous avez des spécialisations des représentants syndicaux et des représentants du personnel, ce qui n'est pas le cas au niveau national. Et donc on se dit, eh bien, on a des généralistes ici, on pourrait, c'est plus simple. Pourquoi n'aurions-nous pas des généralistes là-bas aussi? Après tout, ce serait plus simple. Eh bien, ce qui me semble, à titre personnel, c'est que cette spécialisation des représentants a produit des effets très intéressants dans les entreprises. Notamment dans les comités, les CHSCT pour la santé et la sécurité, vous aviez des types qui étaient élus, qui étaient des spécialistes de santé, des gens qui étaient vraiment au courant, des vrais ingénieurs, qui connaissent les postes de travail. Alors qu'au comité d'entreprise, vous élisiez d'autres types qui étaient pas du tout spécialistes dans ces questions-là. Et je me demande dans quelle mesure ce modèle de la démocratie sociale dans l'entreprise avec des élus spécialisés n'est pas plutôt une idée qui pourrait inspirer ce qui se fait au niveau national? Peut-être qu'on pourrait
inverser
l'influence et se dire que tiens, pourquoi pas un parlement avec des gens qui se connaissent un peu de ce dont ils parlent et qui seraient élus sur des bases spécialisées, ce serait peut-être pas une mauvaise idée.
Mais concrètement, elle est appliquée. Enfin, cette loi est date d'août 2015. Vous avez des exemples? Enfin, c'est déjà appliqué? Il y a des décrets?
Alors, les choses sont toujours progressives en droit social. On ne fait rien de brutal parce qu'on a un petit peu peur encore des syndicats. Il y a des syndicats qui rouspètent. On a aussi de l'opinion publique. Les gens sont attachés à leurs droits sociaux. Et donc c'est progressif. Alors là, par exemple, vous aviez déjà la possibilité de fusionner certaines institutions représentatives. On pouvait déjà fusionner en dessous de 200 salariés les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Et avec la loi Rebsamen, eh bien l'employeur peut fusionner un peu plus. Alors ça peut aller jusqu'à une entreprise de 300 salariés. Et puis on peut fusionner non seulement les délégués du personnel et le comité d'entreprise, mais on peut fusionner aussi avec le CHSCT. Et puis au-delà de 300 salariés, par convention collective, on peut tout fusionner, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Donc, comment dire, les fusions ont lieu, mais pas partout. Il faut que les employeurs le décident. Et puis, au-delà de 300 salariés, il faut aussi qu'il y ait une convention collective qui est signée. Donc, il y a toujours une progressivité dans les disparitions de protection.
Alors, peut-être avant de voir, je sais que vous travaillez collectivement sur, justement, essayer de, finalement, de préparer un autre type de code du travail. Vous avez dit tout à l'heure que le code du travail, certes, il était lourd, il était complexe, et que peut-être le fait de travailler à sa simplification pouvait être bénéfique, y compris pour la protection des salariés. Mais alors, aujourd'hui, quelles sont les grandes options que pourrait retenir le gouvernement dans les prochains textes législatifs? En partie inspiré par le rapport Combrexelle.
Sachant que c'est un des objectifs, parce que Manuel Valls a annoncé une refonte du Code du travail pour 2018.
Oui. Donc, oui. Alors, les étapes qui nous sont annoncées, alors on va voir ce qui va se passer, mais ce qui nous est annoncé, c'est qu'on devrait avoir en janvier, donc maintenant c'est quand même très très bientôt, le rapport de la commission Badinter, qui devrait donner le squelette de ce que pourrait être un droit du travail. Donc,
amaigri.
On aura le squelette. Alors après, on verra si on met de la chair autour, mais dans un premier temps, on va nous donner le squelette. C'est toujours dangereux de commencer par le squelette parce qu'on risque de réduire le droit.
D'oublier de mettre
la chair. Voilà, c'est ça. D'oublier de mettre la chair derrière. Mais bon, ne préjugeons pas de ce qui va être fait. Donc, ils doivent nous livrer ce premier squelette. Et ensuite, on nous annonce la nomination par la loi d'une commission chargée vraiment de refondre l'ensemble du droit du travail, cette fois-ci pour après les élections présidentielles. Attention, dans le projet de loi qui doit arriver en principe, d'après ce qu'il nous a annoncé en mars, il y aurait déjà une refonte complète du droit du temps de travail. Et le droit du temps de travail, c'est une chose très importante. Vous avez beaucoup de salariés maintenant qui ne savent plus quand est-ce qu'ils vont travailler. Ils ne savent plus s'ils travailleront d'un mois sur l'autre, ils ne connaissent plus leurs horaires. Vous ne pouvez même plus organiser un barbecue avec des amis parce que vous ne savez plus quand est-ce que vous aurez du travail.
Les contrats de mission, par exemple, les contrats.
Alors ça, c'est aussi les contrats précaires, c'est encore autre chose. Mais la flexibilité du temps de travail est quelque chose qui s'est considérablement développé en France et l'objectif est encore de simplifier cette flexibilité-là. Attention, si les salariés deviennent corvéables à merci, vous portez atteinte de façon très substantielle à la liberté des personnes de s'organiser et d'organiser leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui se développe et dont on nous prévoit l'augmentation pour mars prochain.
Sachant que déjà, on parle, pour certains salariés, on parle pas en jour, on parle pas en heure, on parle en jour. Donc, il y a aussi...
Alors, la question du forfait jour...
C'est une vraie question, parce que finalement, on n'a plus d'horaire.
La France est, dans l'imaginaire collectif, un pays protecteur. Encore, comparativement à d'autres pays. C'est vrai dans certains domaines. Par exemple, notre assurance chômage, on en dira tout ce qu'on voudra. Elle a ses défauts, elle a des fragilités. Mais si vous comparez avec les autres pays européens, sincèrement, c'est pas la plus mauvaise. Elle est pas mal quand les droits sont plutôt bons par rapport à d'autres pays. En revanche, dans le droit du temps de travail, la France est loin d'être en pointe, d'un point de vue protection. La France est condamnée par le Comité européen des droits sociaux au nom de la violation faite par la France assez régulièrement des droits, mais de base, qui sont prévus soit par le Conseil de l'Europe, soit même par les directives de l'Union européenne. On arrive quand même en France à être en dessous du droit de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'Union européenne, mais pour arriver à aller en dessous des protections sociales de l'Union européenne, je vous assure qu'il faut y aller. Et ce dont vous parlez, le forfait jour, c'était vraiment un problème, puisqu'on avait une violation des droits européens et des maxima d'horaires qui étaient prévus dans le droit européen à cause de ce forfait jour.
Bien, Marc.
Non, mais en plus sur ce terrain-là, là aussi, ça a commencé. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est une accélération. La loi du 17 août, ce qu'on a appelé début des années 90, le travail au sifflet. Je siffle, tu sors. Je siffle, tu rentres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils disent bon, on va faire appel au volontariat et on va négocier. Dans l'entreprise, hein, c'est plus la loi qui va dire, c'est dans l'entreprise, donc les gens vont se débrouiller. Ils appellent ça un droit de proximité. Bon. Genre, les gens sont proches, donc ils vont faire le droit tout seuls. On n'a plus besoin de loi. Et dans ce domaine-là, on peut craindre les pires dérives. Alors, les textes n'en sont pas là, enfin les textes d'aujourd'hui. Mais c'est une accélération de ce qui était déjà connu antérieurement, qui se faisait déjà pas mal. Et on peut craindre que dès 2016, cette fois-ci, hein, dès 2016, notamment avec le. Probablement, là aussi, pas de certitude, on ne sait pas ce qui va se passer, l'adoption d'un texte qui favoriserait accorderait le privilège à la négociation d'entreprise sur la convention collective et sur la loi. Ça, c'est un vrai problème, enfin, me semble-t-il. Enfin, c'est mal engagé, quoi.
Bien, il nous reste peu de temps, peut-être alors terminer sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce projet un petit peu de j'ose pas dire de contre-code du travail, comment est-ce que vous l'appelleriez alors ?
Bien, la question est relativement grave, il nous a semblé que c'était une question grave, que les règles qui entourent le travail salarié concernent vraiment beaucoup de gens. Et si on détruit un certain nombre de protections sociales de base, ça peut entraîner une véritable augmentation des inégalités. Ça peut même être déstructurant pour une société complète. Et qu'il convenait de ne pas laisser un monopole de la proposition aux instances gouvernementales. Il est tout à fait normal que les gouvernements proposent. Il est tout à fait normal que le patronat fasse des propositions. Il nous a semblé qu'il était important qu'il y ait d'autres propositions structurées sur l'évolution du droit du travail. C'est-à-dire qu'il y a une posture qui est souvent adoptée, notamment par les juristes ou par les organisations syndicales, qui est une posture de conservation. On se dit, tiens, le code du travail tel qu'il est, il faut se battre pour le conserver. Pendant que vous en avez qui disent, il faut abîmer ceci, abîmer cela, d'autres disent, nous, on veut juste conserver ceci, on veut conserver cela. Cette vision des choses conservatrice nous semble vouée à un échec certain. D'abord parce que des évolutions sont nécessaires du fait du changement de l'économie, et ensuite parce que si vous ne vous battez pas pour avoir aussi un peu de progrès dans certains domaines, eh bien vous n'obtiendrez rien du tout. Donc notre idée, c'est de construire nous aussi, avec une quinzaine d'universitaires, on s'est mis à la tâche pour essayer d'écrire un autre code. Un code qui soit plus simple, plus clair, et qui, pour autant, ne soit absolument pas en régression, et qui, au contraire, permette un certain nombre de progrès sociaux qui nous semblent nécessaires, parce que dans l'économie actuelle, il y a des difficultés qui sont nouvelles et qui demandent des protections nouvelles, parce qu'il y a des problèmes nouveaux. Et donc, la nouveauté, c'est pas seulement une question de destruction, la nouveauté, c'est des dangers nouveaux, et donc des protections nouvelles aussi qui sont requises. Et donc, on s'est attelé à cette tâche-là.
Eh bien, je pense qu'on porte au bout l'émission.
Non, on a un petit problème technique, mais non, il reste un quart d'heure donc d'émission, mais on peut faire une petite pause, musicale. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous venez d'écouter les Offrices Maracas, Mazinthe. Donc l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic aujourd'hui est consacrée à la réforme du Code du travail. Donc dernière partie de l'émission. Commençons par les négociations collectives.
Oui, parce que on a beaucoup discuté tout à l'heure de cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes, qui, comme on l'a dit, fait qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, il est possible de déroger à la loi, soit au niveau de la convention de branche, soit au niveau des accords d'entreprise. On pourrait à ce moment-là vous interroger sur, mais bon, finalement, discuter au sein de l'entreprise, c'est plutôt un acte de démocratie. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre cette affaire du droit à la discussion d'entreprise, à la négociation d'entreprise? Est-ce que la note se prononce là-dessus? Qu'est-ce qu'elle dit, la note de la Fondation Copernic, sur ce sujet?
Alors, on est d'abord très clair sur une chose. La négociation collective est une chose extrêmement précieuse. Toute personne qui connaît le droit du travail, un tant soit peu, soutiendra et défendra la négociation collective. La négociation collective a eu un rôle historique gigantesque. La négociation collective est la source principale, plus encore peut-être que la loi du droit du travail, et elle l'est encore. C'est-à-dire qu'attention, aujourd'hui, on a effectivement une instrumentalisation de certaines négociations collectives qui génèrent des destructions d'avantages sociaux, mais encore aujourd'hui, le flot de la négociation collective n'est pas dans ce sens-là. Le flot de la négociation collective. Mais oui, les conventions collectives sont encore des actes qui sont négociés par les syndicats pour obtenir des avantages sociaux auprès des employeurs. Vous avez de grandes conventions collectives qui contiennent des grands avantages sociaux. Et dans la masse des conventions, vous avez des milliers de conventions qui sont signées, par toutes les organisations syndicales, notamment dans les entreprises et dans les branches, et qui permettent aux salariés de bénéficier d'un socle de protection beaucoup plus important que le socle de protection légale. Donc attention.
Ce que vous appelez dans la note des négociations d'acquisition, c'est ça?
Oui, des négociations d'acquisition. Et parfois, il y a aussi des négociations qui sont donnant-donnant, sans être déséquilibrées, dans lesquelles les syndicats obtiennent de véritables et importantes contreparties en échange de flexibilités qui sont accordées aux employeurs. Et à la fin, ce sont de bons accords. Les choses ne sont absolument pas à simplifier. Simplement, le législateur essaye d'instrumentaliser cette chose qui est belle et bonne, qui est la négociation collective, pour essayer de faire jouer ce mauvais rôle aux organisations syndicales, qui est d'obtenir de générer des régressions sociales. Dans le rapport Combrexelle, c'est limpide. Il y a une incitation qui est faite. On veut que les organisations syndicales signent des régressions. On veut même les former à accepter des régressions. C'est incroyable. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Le rapport Combrexelle est effectivement dit même, il y a un problème, les organisations syndicales résistent beaucoup quand même et ne signent pas beaucoup de réductions d'avantages sociaux. Il conviendrait qu'ils en signent plus. Oui, ils n'en signent pas beaucoup. Donc la négociation collective, ça montre que c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Simplement, il y a une volonté d'instrumentaliser la négociation pour générer de la régression sociale. Et ça, c'est très dangereux, y compris pour les organisations syndicales à qui on fait jouer le mauvais rôle.
Oui, mais sur ce point, là, effectivement, Manuel dit, nous avons été très clairs, mais les organisations syndicales, dans l'ensemble, sont également très claires là-dessus. La loi, c'est le minimum. Il faut que le minimum soit le plus élevé possible. Bon, on est bien entendu. Mais dans toutes les entreprises, dans toutes les activités, il y a besoin d'adaptation. Et puis, on a la possibilité de négocier pour faire mieux que ce qu'a dit la loi et éventuellement mieux que ce qu'a fait la convention collective de branche ou... voilà. De ce point de vue-là, c'est tout. Alors, c'est vrai que le rapport Combrexelle, je me demande même, Emmanuel, si ça n'est pas l'essentiel de son thème. C'est quasiment obsessionnel quand on le lit. C'est, à la limite, la loi, je ne connais pas. La loi, il dit minima. Quand il dit minima, c'est très, très bas, presque rien. Chacun doit se débrouiller là où il est, dans son entreprise, éventuellement dans sa branche, mais de préférence dans l'entreprise. Il a une vision de l'entreprise comme un centre de démocratie, ce qui est quand même assez...
D'autant plus qu'il y aura de moins en moins de branches, a priori.
Oui, non, en plus, l'entreprise comme lieu de démocratie, il y avait des contre-pouvoirs qui sont de plus en plus réduits, on l'a vu tout à l'heure, mais l'entreprise n'est pas un lieu de démocratie. C'est un lieu d'affrontement. C'est un centre de profit. Uniquement réservé à, aux actionnaires et aux gens qui dirigent. Il faut que là-dessus, on soit clair également. Donc, c'est la raison pour laquelle il est utile, un, d'avoir la loi, et deux, d'avoir des négociations décentralisées, abritées par la loi. Et
il nous reste peut-être une dernière question. Est-ce qu'on a des exemples au niveau européen ou international de modifications de droit du travail qui vont dans le sens de ce qui nous est aujourd'hui proposé? Vous en avez parlé un petit peu au tout début, non? Mais est-ce qu'on a des exemples déjà de code du travail modifié dans ce sens, et est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques enseignements?
Alors, l'évolution internationale du droit du travail est mauvaise. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a un mouvement qui est au sein de l'Union européenne, initié par l'Union européenne, et un peu dans tous les pays d'Europe, on a actuellement des attaques qui sont menées vis-à-vis des protections sociales. Il ne s'agit pas d'une spécificité française. La France a beau régresser, elle régresse finalement relativement lentement, et c'est pour ça qu'on considère qu'on est encore relativement bien protégé. C'est parce que souvent les autres régressent encore plus vite que nous. C'est ça la question.
C'était celle-là évidemment, mais c'était aussi est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques enseignements quant au droit des salariés et...
Une chose est très claire, c'est qu'il n'y a pas d'indexation entre le niveau de protection du droit du travail et le niveau du chômage ou le niveau de crise. C'est absolument démontré. Il n'y a pas de lien. Au contraire, on a même fait des études qui ont été faites notamment aux États-Unis. Ça, c'est particulièrement intéressant parce que vous avez différents États aux États-Unis. Et ces différents États ont des droits du travail qui sont très différents les uns des autres, puisque le droit du travail est fait par les États. C'est surtout une compétence étatique et pas tellement une compétence fédérale. Mmh. Et donc, on a pu faire des comparaisons entre le Massachusetts, par exemple, où vous avez un salaire minimum, des protections sociales, des choses importantes, et puis juste à côté, vous avez d'autres États dans lesquels il n'y a absolument rien. Et donc là, on peut se dire, tiens, ben là, on va faire une comparaison. En plus, la concurrence est absolument parfaite. C'est le dollar des deux côtés. Les salariés parlent la même langue. Et vraiment, tout est extrêmement simple de ce point de vue-là. Et on fait les comparaisons, et je vous assure qu'il y a beaucoup moins de choses. Hommage au Massachusetts, qui est pourtant un pays avec des protections du droit du travail, qu'il y en a dans d'autres pays, comme le Connecticut à côté, où il y a vraiment beaucoup de chômage et on a un droit du travail très faible. Il n'y a pas de corrélation. Au contraire, en revanche, là où il y a une corrélation, c'est lorsque vous détruisez le droit du travail, vous augmentez les inégalités, vous augmentez la violence de votre société. Là, la corrélation est très claire.
Alors, on nous fait signe que l'émission touche à sa fin, donc merci pour tout. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. Elle sera rediffusée aussi sur l'antenne mercredi prochain. Merci encore à nos deux invités, hein, Marc Mangenot et Emmanuel Dequesse, d'avoir accepté notre invitation. Le mois prochain, donc pour la première émission 2016 de Mode d'emploi, on traitera d'un sujet aussi intéressant, c'est le bilan de la COP21. Et notamment de l'accord qui a été réalisé. Je vous souhaite une bonne soirée, de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci encore à tous. Bonne soirée.
Merci
à vous.
Et à l'année prochaine.
C'est dommage que c'est fini. Je voulais faire un mauvais.
Petite couturière, elle est pas haute couture, il faut voir quand elle court. Désolé, mon cœur, ma petite couturière, elle connaît les mesures, et mon cœur est perdu. Là, dans la fourmilière, des trous dans les tricots, et les bas qui s'effilent.